Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. À 6 mois des élections de mi-mandat aux États-Unis, les experts prédisent que le Sénat va basculer dans le camp républicain, ce qui ne ferait que compliquer encore davantage la situation d'Obama. Le président américain est critiqué pour son absence de leadership et sa procrastination sur le plan stratégique. George Bush faisait peur à cause de ses interventions militaires à l'issue catastrophique. Obama inquiète parce qu'il ne semble pas être en mesure de rassurer ses alliés et de faire jouer aux États-Unis leur rôle de maintien de l'ordre international. Impuissance des États-Unis à régler le dossier israélo-palestinien, impuissance des États-Unis face au dossier syrien alors que Barack Obama avait dressé une ligne rouge, à savoir l'usage d'armes chimiques par Bachar al-Assad. Washington avait déjà laissé la France et la Grande-Bretagne au premier rang dans l'intervention militaire contre le régime de Kadhafi. Les États-Unis, comme les Européens au demeurant, ont aussi laissé la France intervenir seule au Mali. En Asie, les Japonais se demandent s'ils peuvent compter sur leurs alliés américains dans le différent territorial qui les oppose avec la Chine. Washington se voit aussi reproché d'avoir été trop accommodant avec l'Iran dans l'affaire du dossier nucléaire. Enfin, en Ukraine, les actuels dirigeants se demandent s'ils peuvent réellement compter sur Washington dans l'épreuve de force qui les oppose à Moscou. Question que se posent aussi la Pologne et les Pays-Baltes. Que penser de ces critiques? Une politique plus offensive d'Obama serait-elle possible? Pour répondre à ces questions, nos invités, Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, bonjour.
Bonjour.
Et Karim Emile Bitar, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, bonjour.
Bonjour.
Que pensez donc de ces critiques? Alors on peut peut-être commencer par l'Ukraine, qui est l'un des grands sujets du week-end avec les élections qui s'y déroulent demain. On a vu un président américain totalement incapable de tenir tête à Vladimir Poutine. Et non seulement ça, mais on a vu aussi Obama multiplier les gestes à l'adresse de Moscou, pas d'extension de l'OTAN à l'Ukraine ou à la Géorgie, démantèlement d'une partie du système antimissile américain en Europe, pas d'appui substantiel à la rébellion syrienne, pas de réplique militaire après l'emploi de l'arme chimique par le protégé des Russes Bachar el-Assad. Autant de gestes perçus comme des signes de faiblesse. Est-ce qu'on peut dire qu'Obama est faible ou inconsistant, Philippe Golub?
Je trouve curieux la nostalgie soudaine des uns et des autres pour un gendarme mondial que les États-Unis seraient supposés devoir incarner. Il y a quelques années, une partie importante de ce qu'on appelle malheureusement, d'ailleurs, la communauté internationale disait que les États-Unis étaient trop interventionnistes. Aujourd'hui, les mêmes pays, la France en l'occurrence, critiquent les États-Unis pour son manque d'interventionnisme en Ukraine, en Syrie ou ailleurs. C'est quand même assez curieux comme phénomène, ce basculement de l'opinion, détester un jour, puis le jour d'après, demander qu'il y ait un gendarme mondial qui règle la totalité des problèmes de la sphère internationale, des conflits internationaux. À un niveau plus profond, plus important d'analyse, je pense que il y a eu deux grandes illusions issues de la fin de la guerre froide. La première illusion, ou erreur du jugement, si l'on veut, hein. La première était que le monde était devenu unipolaire, c'est-à-dire une structure d'unipolarité à long terme, et que les États-Unis allaient dominer la scène internationale de façon déterminante pendant des années, sinon des décennies durant. C'était d'ailleurs l'illusion des néoconservateurs américains et de certains observateurs internationaux qui analysaient cette configuration comme étant une singularité historique. Et deuxième illusion ou erreur de jugement, erreur d'analyse intellectuelle, a été que la mondialisation, et ça c'était dans une optique plus libérale, que la mondialisation et l'interdépendance économique mondiale allaient conduire à la fois la démocratisation du monde, graduellement la démocratisation du monde, et la libéralisation des flux internationaux, et une interdépendance accrue qui allait in fine conduire à une convergence mondiale. Ces deux erreurs de jugement, ces deux optiques-là, aujourd'hui se révèlent comme étant fausses, et on voit bien le monde d'aujourd'hui, un monde qui est un monde fracturé, un monde dans lequel des nationalismes s'affirment de plus en plus, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit, on l'a bien vu lors des élections indiennes l'autre jour, en Inde, un nationalisme hindou puissant qui s'affirme, ou ailleurs, n'est-ce pas? Et donc, dans ce sens-là, demander à Obama de gérer le monde comme s'il était un empereur romain est aussi une demande qui n'a pas de sens. Les États-Unis essaient de gérer ce qu'ils peuvent, de maintenir leur position dans le système international. Et dans ce sens-là, Obama a une gestion plutôt prudente et, comme je le dis depuis très longtemps, réaliste des rapports de force internationaux.
Donc j'entends de ce que vous venez de dire, Philippe Golub, finalement, que Obama est à sa place dans la façon dont il gère tout cela. Karim Emile Bitar, vous partagez?
Oui, on a souvent tendance à oublier que Barack Obama est le président des États-Unis d'Amérique et non pas le président de la planète Terre. On lui reproche de ne pas intervenir ci ou là. On oublie que son objectif principal, ce pourquoi il a été élu, c'est d'endiguer le déclin de la puissance américaine, et cela passé par une refocalisation sur les questions intérieures, ce qu'on appelle le nation building at home, reconstruire la nation elle-même, plutôt que d'aller essayer de construire des États ou d'implanter des démocraties un peu partout dans le monde. Par ailleurs, il y a quelque chose, un effet de balancier. Historiquement, la politique extérieure des États-Unis a toujours oscillé entre des périodes de maximalisme et des périodes de retranchement par la force des choses. Eisenhower s'est retranché sur sa base interne suite à la guerre de Corée. Nixon, après la guerre du Vietnam, a également été obligé de se refocaliser sur la politique intérieure, et ce fut le cas pour Obama après la guerre d'Irak. Donc il faut bien distinguer ce qui relève des facteurs idiosyncratiques, c'est-à-dire la personnalité d'Obama. Et en effet, c'est quelqu'un de réticent à prendre des risques, d'assez prudent, qui ne souhaite pas s'impliquer par monts et par veaux. Mais au-delà de ces facteurs idiosyncratiques, il y a des problèmes structurels qui rendent la politique relativement en réserve des États-Unis nécessaire et qui vont s'imposer aux successeurs d'Obama. Parmi ces facteurs structurels, il y a bien évidemment d'abord l'état d'esprit de la population américaine qui est de plus en plus réticente à accepter l'interventionnisme extérieur. Il y avait seulement 9% qui étaient partisans d'une guerre en Syrie. Et au sein même du Parti républicain, au-delà de la gauche démocratique et pacifiste, vous avez le courant de Rand Paul au sein du Parti républicain qui incarne aujourd'hui l'émergence d'un non-interventionnisme de droite aux États-Unis. Au-delà de l'état d'esprit de la population, vous avez aussi les contraintes liées à l'état des finances publiques. Les guerres d'Irak et d'Afghanistan ont abouti finalement à un taux total, en incluant les frais de santé, de 7 000 milliards de dollars, 7 trillions de dollars. Il y a 2 300 000 soldats américains qui ont été postés à un moment ou à un autre dans un de ces deux pays, qui reviennent avec des stress post-traumatiques, un certain nombre de problèmes. Il y a donc toutes ces contraintes qui s'exercent, sans même parler des contraintes législatives, puisque le Congrès est réticent à octroyer à la Maison-Blanche le droit d'aller un peu partout. On recommence à parler de présidence impériale, on cherche à imposer le War Powers Act, le capping des presidential powers, c'est-à-dire de limiter le droit du président de s'immiscer sous là. On l'a vu ça sur la Libye et sur la Syrie. Donc toutes ces contraintes vont s'imposer au successeur d'Obama, quand bien même celui-ci aurait un tempérament beaucoup plus frondeur et beaucoup plus déterminé à imposer la puissance américaine. L'idée qu'on peut transformer le monde par la violence est désormais une idée qui est derrière nous.
Alors tout de même, on a bien compris hein, tout ce que vous évoquez, Karim-Émile Bitar, notamment les aspects financiers. Enfin, sans être interventionniste, c'est pas ce qu'on lui demande probablement à Obama, mais simplement d'avoir une capacité à faire davantage entendre sa voix et une capacité à dire stop, Karim-Émile Bitar, enfin Philippe Goulu plutôt, pardon. Je pense notamment à la question de la Crimée.
Que pouvait-il faire au juste, à part faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire des sanctions à minima contre certains dirigeants russes? Pouvait-il aller beaucoup plus loin, annoncer que l'Ukraine devait être intégrée dans la structure du commandement intégré de l'OTAN? Que devait-il faire au juste par rapport à cette situation? Il faut voir son action dans la situation telle qu'elle s'est présentée. De plus, les États-Unis se retrouvaient face à une Union européenne divisée sur la question. L'Union européenne est très profondément divisée, ou était très profondément divisée, mais je pense qu'elle le reste, sur la marche à suivre vis-à-vis de la Russie sur ce dossier. La manière dont l'Union européenne a géré toute cette affaire a été avant et après, d'ailleurs, de fait plutôt amateur. Les États-Unis se sont retrouvés dans une situation de difficulté, de gestion d'une crise qu'ils n'avaient pas eux-mêmes prédit, et devant un rival, plutôt qu'un adversaire, devant un rival assez capable. Donc, lever la voix, oui, dire des choses fortes, oui, mais ils ont dit des choses fortes. Prendre des mesures concrètes, c'était une chose très difficile. On demande au président des États-Unis, celui-ci, de résoudre le conflit israélo-palestinien. Je pense que sur ce dossier-là, qui est plus symptomatique des difficultés d'Obama, sur ce dossier-là, Obama a véritablement manqué d'initiative au cours des deux premières années de sa présidence. Là où il pouvait agir sur ce dossier-là, il n'a pas agi lors des deux premières années de sa présidence, pour des raisons de politique internationale et interne domestique que l'on connaît bien. Mais sur le dossier, là, je pense qu'il y a une certaine forme d'errement, sinon de faillite de la politique étrangère américaine, n'est-ce pas? Mais sur le dossier ukrainien, on voit mal exactement ce que le président aurait pu faire de plus de ce qu'il a fait pour véritablement changer la donne de l'évolution ukrainienne.
Pour aller plus loin, moi, ce que je sens tout de même, c'est, alors à défaut que ce soit le président américain lui-même, en tout cas les États-Unis, un pays qui ont du mal, une certaine difficulté avec la question du droit international, d'où cette difficulté à la fois sur la question ukrainienne, la Crimée, et là aussi sur le conflit israélo-palestinien, Karim Mbita.
C'est tout à fait ça. Ce qui est regrettable, c'est qu'on voit parfois chez certains critiques d'Obama une sorte d'admiration secrète pour Poutine. Même chez ceux qui sont les plus radicalement hostiles à Poutine, ils aimeraient voir en fait un cow-boy américain s'opposer au cow-boy russe. Et rien ne serait plus dangereux que cela, et ça nous ramènerait pour le coup vraiment à une guerre froide. La meilleure façon de confronter Poutine, c'est probablement de repenser les politiques d'endiguement, c'est d'imposer les sanctions qui s'imposent et d'attendre que le phénomène Poutine ne finisse par s'essouffler de l'intérieur, comme par le passé, c'était George Kennan, le père de la doctrine du containment, avait compris dès 1947 que l'Union soviétique allait s'effondrer sous le poids de ses contradictions internes, qu'il n'était pas nécessaire de militariser la politique extérieure des États-Unis pour venir à bout de l'Union soviétique. Et M. Poutine commence déjà à être confronté, c'est une victoire à la Pyrrhus qu'il a remportée en Crimée, il commence déjà à être confronté à des problèmes économiques et à des problèmes structurels internes qui pourraient accélérer sa chute. Donc en effet, ce qui serait plus habile pour les États-Unis, c'est de jouer la carte de la reconstruction d'un certain multilatéralisme en passant par le système juridique international et aussi de comprendre que l'Ukraine ne saurait être ni la tête de pont de la Russie contre l'Occident, ni la tête de pont de l'Occident contre la Russie. Il y a des réflexions à avoir sur un système éventuellement fédéral qui respecterait une certaine neutralité. Mais là-dessus, Obama est aussi confronté à certains éléments au sein même de son administration qui sont toujours dans une logique de confrontation. Il faut rappeler que cette histoire d'Ukraine, au tout départ, il y avait eu ce fameux coup de fil intercepté de Victoria Nuland, qui était la secrétaire chargée de l'Ukraine et qui disait que l'Europe aille se faire foutre. Il faut rappeler que cette dame est sur une ligne tout à fait différente de celle d'Obama. C'est l'épouse de Robert Kagan, qui était l'un des interventionnistes les plus marqués, l'un des artisans de la guerre d'Irak. Et Obama, par souci de ne pas être trop autoritaire, a évité de purger le State Department de certains éléments un peu radicaux. Donc il est aujourd'hui également confronté à cette branche-là au sein même de son administration, de son propre parti. Et sa vision, la vision réaliste froide, peine à s'imposer. Donc il y a en effet une incapacité en ce moment à sortir des vieux discours convenu et beaucoup de forces qui nous ramènent à un antagonisme primaire entre les États-Unis et la Russie. Et c'est cela qu'on peut reprocher à Obama, c'est de ne pas avoir suffisamment réfléchi à des formes alternatives de gouvernance globale. Le système est totalement grippé, les mécanismes de la gouvernance collective n'ont jamais été aussi grippés.
C'est-à-dire que, simplement pour aller dans ce sens, on est vraiment dans une certaine forme de tragédie historique, dans le sens que les occasions manquaient. L'occasion manquée de 1991, où au lieu de créer un nouvel ordre institutionnel, ou d'essayer de fonder un nouvel ordre institutionnel multilatéral, stable, inclusif, fondé sur le droit international, et une organisation des Nations Unies rénovée et renforcée, les États-Unis, essentiellement les républicains, la droite américaine, mais aussi certains éléments interventionnistes et unilatéralistes du Parti démocrate américain, les triomphalistes de l'après-guerre froide, ont cru, du fait de l'illusion dont j'ai parlé il y a quelques instants, ont cru pouvoir gérer le monde tout seul, alone, America alone. Et gérer le monde tout seul, ça a toujours été une impossibilité. Une forme de vision historique grandiose, mais complètement illusoire. Les États-Unis et l'Europe ensemble, avec la Russie à la fin de la guerre froide, auraient pu créer un ordre européen stable et pacifié, fondé sur la coopération et l'interdépendance. Au lieu de cela, il y a eu une forme de mise en isolement progressif de la Russie, d'endiguement de fait d'une Russie que les États-Unis ne voulaient pas voir réémerger comme grande puissance dominante. La doctrine américaine historique en Europe a toujours été de ne pas laisser une puissance régionale dominer le continent européen ou le continent eurasiatique, n'est-ce pas ? C'est vrai en Asie orientale aussi, n'est-ce pas ? La même doctrine s'applique au Moyen-Orient et dans le golfe arabo-persique. C'est-à-dire assurer les équilibres régionaux de façon à créer une situation géostratégique favorable pour les États-Unis. Ne pas assurer à la Russie une position dominante, ni à l'Allemagne d'ailleurs, n'est-ce pas ? Ou à la France, bien évidemment. Donc on est là dans l'héritage du passé. Et cet héritage-là pèse très lourdement dans les représentations mais dans les réalités des rapports russo-américains.
Alors, ce qu'on sent tout de même, on va reparler de la Russie, et notamment à propos de la visite de Vladimir Poutine en Chine cette semaine, qui est une visite, moi, qui me semble extrêmement importante, avec des conséquences géopolitiques très fortes. Mais pour en revenir à Obama et à sa façon de mener son action diplomatique, est-ce que vous partagez l'un et l'autre l'avis de certains selon lequel Obama serait victime, finalement, de ses talents d'orateur, avec des discours sur l'état du monde particulièrement brillant, dans la forme, intellectuellement puissant, de beaucoup d'humanisme, et puis derrière cela, finalement, une plutôt pâle action diplomatique, Karim Mbita.
Oui, il y a certainement un décalage impressionnant entre la beauté du verbe et les dures réalités géopolitiques. Derrière ces superbes discours, et c'est vraiment un orateur d'exception, Obama a reproduit un certain nombre de politiques de puissance qu'on retrouve par l'usage des drones qui a été multiplié par 10 après le mandat de George Bush, qui crée un ressentiment au Yémen, au Pakistan, dans beaucoup de pays, par le recours à tout ce qui est opérations secrètes, covert operations contre Al-Qaïda, qui sont également ambiguës parce que c'est vrai qu'elles peuvent être efficaces, mais qu'elles ne nous sortent pas des vieilles logiques. Et là-dessus, on peut parler d'hypocrisie. Il y a quand même une hypocrisie assez claire parce qu'on n'a pas voulu rompre avec l'idée d'une Amérique toute puissante pouvant influencer ses voisins. Il y a la cyberguerre qui est devenue un outil fondamental de la politique extérieure des États-Unis, qui a fait beaucoup de mal à l'Iran, et c'est une des raisons qui ont poussé l'Iran, peut-être encore plus que les sanctions économiques, qui ont poussé l'Iran à venir négocier avec les États-Unis. Et cela peut se retourner contre l'Amérique. Une déclaration de Robert Gates, l'ancien ministre de la Défense, qui dit que c'est aujourd'hui la France qui est le principal pays accusé d'espionner les États-Unis et de lui mener à son tour des opérations douteuses en matière de cyberguerre. Donc les États-Unis s'exposent à des répliques. Quand c'est la France, ça va, mais quand demain ce sera la Chine ou la Russie, ça pourra nous entraîner assez loin. Donc cette hypocrisie, cette volonté de ne pas afficher ouvertement débarquer avec ses gros sabots, mais de poursuivre les vieilles politiques de façon un peu plus feutrée, n'est pas forcément la meilleure stratégie, même si elle est bien évidemment préférable à celle qui a prévalu durant les années 2000.
Alors, pour aller plus loin, de ce que disait Karim Émile Bitar, Philippe Golub, Karim parlait d'hypocrisie. Si on va plus loin, est-ce qu'on peut éventuellement dire qu'Obama souffrirait d'un problème de crédibilité ?
Ça dépend de quel point de vue on se place. Il souffre d'un problème de mise en œuvre de politique internationale qui marcherait. C'est-à-dire, est-ce que c'est la crédibilité? La crédibilité a été définie par George Bush, et historiquement parlant, par tous les réalistes depuis toujours, comme étant la capacité de faire la guerre et d'impressionner l'autre par la menace de la violence ou la violence réalisée. La crédibilité, c'est quoi au juste? La crédibilité d'un pays, c'est la mise en œuvre de la menace? Est-ce qu'il a perdu de sa crédibilité lorsqu'il n'est pas intervenu en Syrie? Moi, je ne le pense pas. Que les critiques néoconservateurs qui le disent se trompent sur cette question et se trompent lourdement. Pour ce qui est de l'hypocrisie, la France a un verbe universaliste aussi, depuis toujours, n'est-ce pas ? La France, pays des droits de l'homme, fondatrice des grands mouvements d'idées des Lumières, n'est-ce pas ? Pourtant, la politique française internationale a toujours été empreinte d'un réalisme à toute épreuve, de Richelieu à Mazarin, en passant par les réalistes plus récents, je pense au président de la Ve République. Quand la France a-t-elle pu joindre sa parole universaliste aux réalités de ses actes sur le terrain ? Donc, on est là dans les réalités de la politique internationale, n'est-ce pas ? C'est ni la France, ni les États-Unis, ni les autres. La Russie a cru à un certain moment aussi, être un but d'une mission universelle, mais ça, non pas démocratique, mais plutôt slavophile. Peut-être un jour la Chine croira-t-elle la même chose. Pour l'instant, non. La Chine pense pour l'instant simplement avoir une mission historique de se redonner la position de puissance, d'influence et les satrapes qu'elle avait en Asie orientale avant l'ère de la colonisation occidentale. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est que le problème de la crédibilité est un problème vu de Paris, par exemple. Quand Paris dit, ou ailleurs en Europe, quand Paris dit, ou quelqu'un en Europe dit, vous êtes en train de détruire votre crédibilité parce que vous n'avez pas bombardé la Syrie. Ou après avoir dit en Irak, vous avez détruit votre crédibilité parce que vous êtes intervenu en Irak. On est là dans des discours, ce sont des discours. La réalité de la politique internationale ne se forge pas à partir de ce genre de perception-là à court terme.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Karim Émile Bitar et Philippe Golub dans quelques instants. À tout de suite.